Moi, je suis André, je ne suis pas locataire oriental. J'ai réfléchi totalement cette
histoire. Moi, j'ai essayé de vous compagner au personnage. Bon, on peut entendre les deux, la vie de mes présidents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour, c'est parti pour près d'une heure d'échange et de discussion sur des faits que vous vivez au quotidien. La lutte contre l'extrême pauvreté et la faim sera au centre de notre mission. Selon le PNUD en RDC, plus de 80% des Congolais vivent avec moins $1 par personne ou par jour. Le rapport mondial sur le développement humain de 2009 classe la RDC au 156e rang sur 182 pays. Il faut signaler qu'il s'est tenu à New York la 65e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Un des sujets majeurs de cette session concerne l'évaluation des objectifs millénaires pour le développement. Le premier objectif est la lutte contre l'extrême pauvreté et la faim. D'ailleurs, à ses assises, le président Kabila a estimé que la pauvreté, la misère et la précarité qui accablent les populations ne sont ni une fatalité ni un état irrémédiable. La question pour lancer notre mission, quelle stratégie proposez-vous pour lutter contre la pauvreté en RDC? Notre invité Emmanuel Estimbo, coordinateur national de l'unité de pilotage du processus de l'élaboration de la stratégie nationale de réduction de la pauvreté au ministère du Plan. Kirola Meji, Cynthia Bachizi et la future de Nicole Ngaka sont à la réalisation de cette émission.
Parole aux auditeurs par internet pa@radiookapi.net.
Bonjour Monsieur Manu Essayé.
Bonjour madame.
Comme je l'ai souligné tout de suite à l'introduction, vous êtes coordonnateur national de l'unité de pilotage du processus de l'élaboration de la stratégie nationale de réduction de la pauvreté au ministère du Plan. Donc c'est vous, en gros, pour nos auditeurs, un peu plus simple, c'est vous, au niveau du ministère du Plan, qui êtes à la tête de ce document stratégique de la réduction de la pauvreté en RDC, qu'on appelle souvent le DCRP. C'est un peu plus simple, pour que nos auditeurs puissent se comprendre.
Ok, vous l'avez bien dit.
Donc aujourd'hui, où en est-on avec la lutte contre l'extrême pauvreté en RDC? Pour d'abord commencer un peu plus simple, quand est-ce qu'on peut dire qu'une personne est pauvre?
Bien. Merci beaucoup de m'inviter à la radio Okapi pour parler d'un sujet qui est véritablement un sujet d'actualité, comme vous l'avez souligné. C'est un sujet qui rentre dans les objectifs millénaires pour le développement et il vient se tenir à New York justement les assises spéciales, n'est-ce pas, des Nations Unies pour évaluer à mi-parcours les objectifs millénaires pour le développement, les OMD. Quand est-ce qu'on peut dire que quelqu'un est pauvre? Évidemment, si on se réfère à ce qui a été défini lors de l'adoption des objectifs millénaires pour le développement, on estime qu'une personne qui vit avec moins d'un dollar par jour est pauvre. Ça, c'est une définition purement monétaire. Et je n'arrête pas ici à faire des développements trop académiques, trop scientifiques, qui sont d'ailleurs des développements très discutés. Mmh. Il y a des approches qui prônent justement des aspects monétaires, mais il y a des approches également qui visent des aspects purement sociaux, c'est-à-dire qu'on regarde l'habitat, on regarde l'alimentation, on regarde d'autres éléments.
Les habitudes même de la société.
Voilà, justement.
Mmh. Et dites-nous, à ce niveau-ci, c'est vrai que la RDC s'est dotée depuis 2002 du premier plan document stratégique de réduction de la pauvreté. C'était un plan qui était totalement intermédiaire jusqu'à ce que vers les années 2005-2006 on a eu ce document final. Du coup, l'instant, où est-ce que nous en sommes dans cette lutte de l'extrême pauvreté?
Bien, merci. Effectivement, en 2002, pour des raisons de capacité, et pour des raisons liées à l'environnement qui était le nôtre. En 2002, le pays n'était pas entièrement pacifié. Mm-hmm. Il nous avait été demandé, compte tenu des contraintes et évidemment en matière de statistiques, il avait été demandé d'élaborer un document intérimaire, un document provisoire, où on s'est fixé quelques objectifs très réduits, hein, qui n'avaient rien à voir avec les OMD. Et on a travaillé sur la base de ce document, les programmes macroéconomiques qui se sont mis en place pour lutter contre l'inflation, contre la dépréciation de la monnaie, tout ça, ont été exécutés dans le cadre de ces programmes intérimaires. En 2006, peu avant les élections, le gouvernement de transition a adopté un DCRP complet, un DCRP final. Mais malheureusement, comme je l'ai dit, on était à quelques mois des élections, et ce n'est pas pendant les élections qu'on peut mettre en place une stratégie de lutte contre la pauvreté. Mm-hmm. Ce qui fait que ce document a traîné pratiquement jusqu'à mars, avril 2007, pour être endossé par le gouvernement à l'issue des élections. Et après cela, ce document, on s'en est rendu compte que n'avait pas un plan d'action de mise en œuvre. La stratégie, la réflexion était là, mais maintenant, les instruments pour appliquer sur le terrain n'existaient pas. On s'est mis à élaborer maintenant un plan d'action de mise en œuvre du DSRP. Et ce plan d'action a été achevé pratiquement en juin-juillet 2008. Et vous comprenez que c'était pratiquement l'année de l'échéance du DSRP, parce qu'un DSRP est conçu pour 3 ans. Ayant été élaboré en 2006, son échéance, c'était donc 2008. Autrement dit, on a eu le document de mise en œuvre de notre stratégie de lutte contre la pauvreté à l'année de l'échéance même de la stratégie.
Mais entre-temps, est-ce que la situation s'était empirée ou il y a eu des améliorations?
Bon, bien sûr, on se réfère à la définition monétaire, la pauvreté. C'est-à-dire que le fait de vivre, le fait des individus qui vivent avec moins d'un dollar par jour, et que cette part est très importante. Si on se réfère à cette définition, il y a eu des enquêtes. Après, il faut tabler ce jugement sur la base des statistiques. Il ne faut pas regarder les ciel à terre pour dire que le pays est pauvre. Mais il faut interroger les données statistiques, établir les résultats. Et sur la base d'une enquête qui a été menée, il a été établi que 71% des Congolais vivaient sous le seuil de la pauvreté. Donc, vivait avec moins d'un dollar par personne par jour. Là, c'était en 2006. Les résultats d'enquête, c'était même en 2005. Les documents étaient adoptés en 2006. Qu'est-ce qui s'est passé entre 2005-2006 à 2006 aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui nous parlons? Eh bien, normalement, il faut passer par la même démarche. C'est-à-dire qu'il y a eu une enquête qui a déterminé ce seuil de pauvreté de 50% en 2005-2006. Il faudrait également la même enquête, une enquête de même nature pour déterminer quel est l'état de la pauvreté au jour d'aujourd'hui. Mmh. Et cette enquête a manqué malheureusement, ce qui fait que nous sommes en train de penser que la pauvreté aurait reculé compte tenu du fait que dans la situation s'est stabilisée, tout de même que bon, on a enregistré des croissances économiques depuis pratiquement 2002 jusqu'à ce jour. Donc nous pensons qu'avec la croissance économique, la pauvreté doit avoir reculé sans soit peu.
Mais n'empêche, quand nous promenons dans nos quartiers, lorsque nous avons des coups d'appel de nos, des coups de fil de nos auditeurs à l'intérieur du pays, c'est toujours le même constat. On sent que la population souffre. Mais nous allons écouter nos auditeurs, ce qu'ils pensent, parce qu'aujourd'hui notre émission sera axée sur des propositions à faire pour pouvoir reculer cette pauvreté. Et qu'est-ce qu'ils ont comme proposition qui peut être applicable, bien sûr, au regard déjà d'un plan qui existe déjà pour notre pays.
Parole aux auditeurs.
Bonjour, Cindy. Cindy? Cindy est à Boma, elle à partir de Moba plutôt. Moba, c'est dans la province du Katanga. C'est le temps que la réalisation pourra le recontacter pour qu'il puisse aussi s'exprimer et nous dire ce qu'il pense, quelle stratégie lui propose pour pouvoir lutter contre la pauvreté en RDC. Entre-temps, nous avons Agandi de Bukavu. Bonjour.
Ok, bonjour, je suis Agandi Machumbi, quoi, partir de Bukavu.
Dites-nous, pour vous, selon vous, que faut-il pour repousser cette pauvreté en RDC?
Ok, moi j'avais des propositions. La première, ça sera une question. La deuxième, ça sera une suggestion. Bon, premièrement, je remercie d'abord le gouvernement parce que le gouvernement commence à se réveiller. Et surtout, remercier aussi le ministre de l'Agriculture parce que lui, il a envoyé quelques tracteurs pour travailler. Mais c'est déplorable parce que vous voyez que ces tracteurs ne font rien. Ce tracteur est des handons qui circulent sur les dans les routes pour les temps passent en voie. Bon, et aussi j'aimerais ajouter parce que bon, le gouvernement pourrait se pencher surtout à l'agriculture parce que, ici à Bukavu, chez nous, nous vivons grâce aux champs. Mm-hmm. Et si on méprise les champs, ok, les gens vont mourir de fait. La deuxième suggestion que j'avais, j'aimerais dire à l'invité d'aujourd'hui, surtout de se pencher aux étudiants. Parce que c'est ce qui a créé, c'est ce qui crée surtout la profit. Parce qu'avec cette nouvelle génération, on voit tous ces jeunes qui vont à l'université, ils veulent être, bon, après avoir terminé leur études, ils veulent être des ministres, des députés. Or, avec cette mentalité, les Congolais n'étaient pas à gagner. N'étaient pas donc à s'améliorer. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Le gouvernement pourrait créer surtout des écoles de métiers, tout ça, parce que ce n'est pas n'importe qui dans l'université. Les gens pourraient travailler très fort pour qu'ils soient des maçons, pour qu'ils soient donc des chauffeurs, mais avec cette mentalité, on va tenter de ruiner les écoles secondaires qui dépendent surtout à l'université. Avec ça, ça peut surtout créer encore une grande famille dans toute la République. Mais les jeunes pourraient surtout se pencher au travail manuel et surtout au chat, comme nos anciens faisaient. Et avec ça, le Congo pourrait s'améliorer.
Merci beaucoup, Agandi. Vous appelez à partir de Bukavu au Sud-Kivu pour vous commettre un accent sur l'agriculture, passer par la formation, c'était de voir au niveau de l'éducation qu'il y a une formation adéquate aux besoins du pays pour le développement. Merci, Agandi de Bukavu. Bonjour, Blanchard.
Oui, bonjour, Marie Chantal.
Bonsoir, on vous écoute, vous êtes en Mbandaka.
Oui, je n'ai pas vraiment beaucoup de choses à dire par rapport à ce sujet. Ce que je peux plutôt faire comme proposition à notre gouvernement, comme l'État congolais ne se préoccupe pas de l'état actuel de la pauvreté de sa population, ce que je peux lui demander de faire est qu'il invite la population à travailler pour chercher comment se débarrasser de l'état de la pauvreté que nous sommes en train de vivre ces derniers temps.
Et vous, Blanchard, vous pensez qu'il faudrait que l'État puisse mettre en place un mécanisme ou des conditions permettant la promotion des métiers ou des entreprises qui puissent employer les gens ou bien le privé? Donnez-nous enfin bref, quand vous dites que l'État doit inviter la population à travailler, qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Oui, je voudrais dire par là qu'il donne à la population les moyens, comme les outils de travail, les bêches, les roues, pour que la population puisse s'occuper, quoi, travailler dans la forêt. C'est ça, qui l'agriculture, c'est ça ce que je voulais dire.
Vous pensez aussi, comme à Gandhi, qu'il faudrait passer par l'agriculture, créer de l'emploi. Merci Blanchard de Mbandaka. Nous allons à Likasi, nous retournons au Katanga, où on avait raté notre premier auditeur. Cette fois-là, c'est Pompon qui se trouve à Likasi. Bonjour.
Bonjour madame Marie-Chantal.
Oui, Pompon, on vous écoute. Pour vous, quelles sont les stratégies pour pouvoir lutter contre l'extrême pauvreté et la faim?
Merci beaucoup. J'avais aidé à apporter une contribution tout en ajoutant ce que a dit notre frère Agange au niveau de Bukavu. Je lui dis tout simplement que la relance de l'économie congolaise ne peut pas dépendre seulement de l'agriculture, bien que l'agriculture est une priorité des priorités. Je vais évoquer une théorie économique qui stipule que pour bien relancer l'économie, il faut passer par plusieurs étapes de l'économie. Je vais prendre seulement la toute première étape d'une bonne économie du pays qui n'est autre que la production. Pour produire, la production c'est la première étape. Pour produire, il faut avoir les facteurs de production. Et parmi eux, nous pouvons avoir les facteurs humains qui constituent les hommes. Il faut que les hommes soient bien capables, soient formés en bonne et due forme pour qu'ils puissent bien produire. Pour avoir les hommes, ça ne suffit pas. Il faut avoir aussi les facteurs technologiques, il faut avoir des machines, des outils. Et nous remercions beaucoup plus l'État congolais des efforts qu'ils sont en train de fournir. Le gouvernement est en train de fournir beaucoup d'efforts pour avoir quand même les différentes technologies de l'Occident. Et puis, à part ça, nous avons les facteurs humains, c'est tout simplement avoir j'ai oublié les facteurs financiers, avoir quand même de l'argent pour permettre à toutes les opérations économiques. Et en fait, ça, j'ai voulu me résumer d'une manière concrète, c'est qu'il faut passer par toutes les étapes de l'économie, prendre les étapes de l'économie pour bien produire. Et pour bien produire, il faut réunir tout, pour être comprenant le modèle de l'Occident. Et quand on parle d'Occident, c'est-à-dire les Chinois, par exemple, ils marchent avec les deux pieds, c'est-à-dire l'agriculture et l'industrie. Nous prenons ici des exercices beaucoup plus, nous pouvons développer notre pays à travers les différents niveaux économiques qui sont les entreprises minières. Et tout pour trouver beaucoup d'efforts, il faut baisser le temps de la peine pour que l'on puisse être bénéfique dans le sens des
Congolais. Merci. Merci beaucoup. On a l'impression que la ligne est en train de se détériorer, on ne vous suit plus très très bien, mais quand même on a compris ce que vous voulez nous dire. Vous pensez qu'il faudrait augmenter la production interne dans le pays, ce qui permettra de pouvoir lutter contre la pauvreté. Merci Pompon pour votre participation. Bonjour Guillaume. Guillaume, vous êtes à Magui, on vous écoute. Guillaume.
Bonjour.
Oui, Guillaume, on vous écoute. Dites-nous, pour vous, que faudrait-il faire pour lutter contre l'extrême pauvreté en RDC? Guillaume.
Oui, je suis très content que j'ai fallu d'abord premièrement l'inviter qui est du domaine. Je pense sur le sujet.
J'ai invité Guillaume. Quelles sont vos propositions, Guillaume?
Ok. Alors, oui, avant d'aller loin, il faut que je fasse la nécessité que la pauvreté est une situation où si on est dans l'état, est capable de déchirer les bénéfices et de déchirer les ressources de tous ces fonciers et gagnants, oui, avant d'aller.
Oui, Guillaume, vous avez soulevé, vous pensez que l'État, jusqu'à présent, n'a pas pu s'assumer pour lutter contre la pauvreté et la faim, mais quelles sont vos propositions, Guillaume?
Si l'État prend les choses au sérieux, comme on prend ça ailleurs, comment on est décidé par son pays? Pourquoi la pauvreté reste vraiment se décide? Parce que ceux-ci n'ont pas un monopole et si les États ne prennent pas les choses au sérieux. Oui, dans les pays du Sud, par exemple, les organisations financières internationales, notamment la Banque mondiale, considèrent que la population dont les ressources n'atteignent pas un dollar en pauvreté. Oui, dans l'hémisphère nord, la pauvreté est définie de manière sub-absolue, relative à toute personne dont les ressources ne sont pas à 50%. La question qu'on peut poser aujourd'hui, si nos États prennent en compte la chose au sérieux, pourquoi la Chine connaît seulement 6,5% de pauvreté? Parce que les États prennent les choses au sérieux. Pourquoi l'Inde connaît seulement 35% de pauvreté? Parce que le gouvernement indien prend aussi les choses au sérieux. Donc, monsieur l'invité, comme il est du domaine, il doit savoir que la pauvreté est une situation où seul le bien état est incapable d'assurer le bien-être et de faire ressortir et de faire fonctionner les galères. Voilà. Voilà, monsieur l'invité. Voilà, je vous remercie.
Merci, Guillaume de Magui. Le dernier invité, plutôt le dernier auditeur de cette première série, c'est Serge de Goma. Bonjour.
Oui, bonjour.
Serge, on vous écoute. Quelles sont vos propositions?
Ah oui, c'est Serge Farini à partir de Goma. Et donc, moi, personnellement, en effet, pour atteindre cet objectif dans notre pays, il faut plus de pragmatisme et une volonté politique accrue. Il faut que, d'une part, les gouvernants se soumettent aux exigences de la bonne gouvernance et à l'état des droits, et que, de l'autre part aussi, toute la population s'imprègne de ses obligations envers l'État, notamment le civisme fiscal. Cependant, à notre niveau, c'est enfin notre association Jeunes pour la non-hypothèque du Congo ici à Goma, nous militons pour l'institution d'un impôt de solidarité des fortunes posées sur les grandes richesses qui pourraient financer le revenu minimum d'insertion de plus de 80% des Congolais qui aujourd'hui croupissent sous le seuil de la pauvreté. Cela pourrait engendrer, à mon avis, n'est-ce pas, une classe moyenne en RDC et, n'est-ce pas, renvoyer au calendrier grec la pauvreté telle que prônée par les ONG qui, il faut qu'on se le dise, a atteint son paroxysme et franchi les rubicons dans notre pays, les Congolais. C'est un peu ça que j'ai comme proposition. C'est un impôt de solidarité des fortunes que le peuple congolais a besoin aujourd'hui.
Merci Serge de Goma.
Parole aux auditeurs. Pour intervenir en direct sur VIA LFMS, composez le 081-99-77-800 par internet ca@radioacapi.net.
Donc, Monsieur Manu Estimbo, vous avez suivi nos auditeurs, plusieurs propositions, bonne gouvernance, service fiscal, essayer de mettre la population au travail, la formation, passer par l'agriculture. Mais quels sont les éléments qui sont repris dans le DCRP et qui peuvent permettre, au regard de toutes ces propositions, d'aller de l'avant?
Merci beaucoup de la direction de la question que vous avez posée. Vous avez bien fait de vous orienter, de m'orienter également vers le DCRP, pour éviter qu'on puisse répondre de façon très isolée aux préoccupations qui ont été soulevées par-ci par-là, qui sont des préoccupations tout à fait fondées, très fondées même, et qui reflètent, comment dirais-je, l'opinion en général. Je crois que, contrairement à ce que d'autres pensent, je crois que l'État a pris conscience lui-même de la nécessité de lutter contre la pauvreté. L'État a pris conscience de la nécessité de systématiser ses actions, d'organiser ses actions dans un cadre cohérent. Quand on parle du DCRP, le DCRP, c'est un cadre stratégique. Stratégique, c'est-à-dire que le gouvernement s'est donné une vision. Le gouvernement s'est dit, qu'est-ce que le Congo, par exemple, de 3 dans 3 ans, dans 6 ans, dans 10 ans, aujourd'hui, nous sommes en train de parler de 25 ans à travers l'étude nationale prospective qui sera lancée, que le Congo, dans 25 ans, devrait être, à quoi ce Congo devrait ressembler. Donc, on fait toute une vision tout de même du développement. Et par rapport à cette vision-là, on monte une stratégie. On organise des actions. On organise des priorités. On organise des orientations. Donc, je crois que quand on parle du DCRP, on parle justement de cette prise de conscience par l'État d'organiser son action en direction de la lutte contre la pauvreté. Certaines propositions, ou disons toutes les propositions qui ont été avancées, tournent autour des priorités, fort heureusement, des priorités qui ont été retenues dans le DCRP, de première génération, le DCRP qui a été prorogé jusqu'à 2010. Nous avons la santé, l'éducation, l'agriculture, le développement rural. Quelles étaient les priorités, n'est-ce pas, du DCRP des premières générations? Et quand je vois que pratiquement trois interventions, plus ou moins trois ou quatre interventions, citent l'agriculture, je me dis que c'est une indication très importante. Pourquoi? Parce que les objectifs, ou plutôt les priorités dans un DCRP, qui est un document fédérateur, qui reprend non seulement les idées des gouvernants, mais aussi des gouvernés et aussi des partenaires.
Parce que ça a été élaboré avec la participation
voilà.
à tous les niveaux, à tous les échelons, au niveau provincial, au niveau des territoires, jusqu'au niveau national.
Voilà, donc je voulais éviter l'approche participative, parce que comme Paris, une expression peu savante. Donc, le desservi qui a été élaboré en consistant justement tout le monde à relever, à retenir l'agriculture comme une priorité. Quand j'entends les auditeurs revenir sur l'agriculture, ça me dit que cette priorité-là peut demeurer même pour le desservi des deuxième génération que nous sommes en train d'élaborer.
Mmh.
L'emploi est revenu en entreprise et je dois dire que l'emploi, c'est un domaine transversal. On cherche l'emploi dans tous les secteurs. Autrement dit, quand on promeut tous les secteurs, on fait en sorte que l'emploi soit, comment dirais-je, le champ de l'emploi soit étendu. Donc, ça c'est très important. Et dans le desservi des premières générations, même si cela n'est pas repris, n'est pas ressorti comme une priorité comme telle, mais l'accent a été mis, bien avant même le déterpé, a été mis sur le renforcement des capacités. Et vous soulignez ici le renforcement des capacités humaines.
Est-ce que vous pouvez un peu vous mettre en direction du micro, comme ça on pourra mieux vous écouter.
Merci beaucoup. Mmh. Et donc, le renforcement des capacités et les capacités humaines est très importante. Et la proposition qui a été faite de mettre l'accent sur la formation professionnelle, ça, je crois que ça doit relever, ça doit, comment dirais-je, inspirer le ministère de l'EPST, le ministère de l'Emploi, Travail et Prévention sociale, pour que dans leur stratégie sectorielle, ils puissent ressortir cet aspect des choses de manière à ce que on puisse voir dans quelle mesure on peut renforcer, n'est-ce pas, on peut améliorer davantage, n'est-ce pas, la formation en mettant l'accent sur la professionnalisation de l'enseignement.
On regarde bien sûr les besoins du pays pour le développement.
Bien évidemment. Nous, tout à l'heure, là, nous sommes en train de travailler sur l'amélioration de la stratégie d'enseignement supérieur universitaire. Ça, c'est très important. La professionnalisation, c'est pas seulement au niveau des jeunes gens qui sortent, par exemple, de secondaire, mais aussi au niveau des personnes qui sortent, des jeunes gens qui sortent des universités.
Mmh.
Au jour d'aujourd'hui, nous avons une formation purement académique qui ne nous rend pas tellement très utile.
Généraliste assez vaste.
Assez vaste. Et ce qui est vaste, c'est parfois paraît vague. Et quand on est vague, bon, on est proche, beaucoup plus.
Mais quand est-ce que le Congolais lambda pourra ressentir les actions du DCRP? Parce que c'est ça le problème, c'est ça le souci. C'est ça ce qu'ils attendent, qu'un jour ils puissent avoir un revenu stable, qu'ils puissent avoir une satisfaction dans ses besoins alimentaires, qu'ils puissent avoir accès à des soins de santé, à la scolarisation. À votre avis, il faudrait combien de temps?
Oui, madame, la question est trop vaste, c'est comme si vous me demandiez, il nous faut combien de temps pour que le Congo soit proche du paradis? Je crois que...
On parle d'extrême pauvreté et non d'éradiquer la pauvreté. L'extrême pauvreté.
Oui, la pauvreté ne disparaît pas jamais de la planète. Je crois que même aujourd'hui aux États-Unis, on dit qu'il y a un Américain sur 7 qui vit sous le seuil de la pauvreté. Donc, je crois que le chemin est long. Ce qu'il faut faire, c'est que les DSRP d'avenir doivent être des DSRP très ambitieux.
Il faut que la population s'approprie aussi. Quel rôle elle peut jouer en fait?
La population, à travers l'approche même d'élaboration du DSRP, soit que la population s'approprie déjà du DSRP. Lorsqu'on consulte, évidemment, il faut préciser, il faut informer la population à l'avance qu'on est en train de la consulter en vue de déterminer les priorités qui peuvent être mises dans un document mise dans un document de stratégie pour qu'ensemble nous puissions voir comment conjuguer nos efforts en vue de lutter efficacement contre la pauvreté. Mmh. On ne peut pas lutter contre la pauvreté de façon dispersée du dehors. C'est déjà le fait qu'on a un désperté. Le fait qu'on est en train de systématiser nos efforts de lutte contre la pauvreté, hein, je crois que c'est déjà quelque chose de très positif. C'est vraiment une avancée significative.
Nous allons écouter d'autres auditeurs qui veulent s'exprimer.
Radio Okapi unit le Congo avec vous au centre de ses activités. Vos problèmes, vos avis, vos pistes de solutions sont l'objet de notre émission Parole aux auditeurs. Où que vous soyez, Parole aux auditeurs vous donne la parole. De lundi à vendredi de 11h à midi, sur le Kinshasa, et le mercredi de 8 à 11h, vous avez 60 minutes pour donner votre avis sur les sujets du jour. Dans Parole aux auditeurs, c'est vous qui faites l'action. Alors, on retient de lundi à vendredi de 11h à 12h et mercredi de 10h dans le Kinshasa.
Bonjour Richard, vous êtes ici à Kinshasa. Pour vous, quelle stratégie faut-il mettre en place pour lutter contre la pauvreté en RDC?
Merci Marie-Chantal, bonjour aussi à vous et à votre invité et à tous les auditeurs. Alors, pour moi, la première chose c'est quoi? Je suis gêné de la façon dont on aborde ce dossier très très, très important, sans faire voir aux auditeurs de façon panoramique d'où nous venons, c'est-à-dire avant 60 et après 60 jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je sais qu'avant 60, nous avons été un pays qui a soutenu les Alliés dans leur déboire. Hein, pensez un peu à la guerre 14-18, 40-45. Et avant 60, jusqu'à la question de notre pays à l'indépendance, nous avons eu une monnaie très forte, avec une forte économie. J'avais aimé, à ce sujet, qu'on parle des coups de massue que le Congo avait eu pour arriver à ce niveau. Il y a le fameux dossier qu'on n'aime jamais parler, le contentieux belgo-congolais, c'était un pillage. Il y a eu les pillages des Congolais sous forme de zaïranisation. Il y a eu toutes ces guerres depuis 60 jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Donc c'est le premier point. Le deuxième point, j'ai beaucoup aimé qu'on ait parlé de l'agriculture comme le point névralgique sur lequel on doit agir, mais qui s'occupe de l'agriculture. Et regardez un peu notre comportement, nous les cadres, qui consomment le produit congolais. C'est ça encore le problème. En troisième lieu, j'ai beaucoup aimé l'angle sur lequel on s'est reposé par rapport à la formation au Congo. Il faut que l'on fasse un effort pour qu'on puisse professionnaliser toutes les sections. Et ça, c'est l'incapacité du ministère de l'enseignement primaire et secondaire et professionnel. On croit que la professionnalisation, c'est seulement former des menuisiers, etc., etc. Excusez-moi de parler de moi. Moi, j'ai professionnalisé ma section biochimie à tel point que je sais transformer ce que les autres ne savent pas. Je sais planter. Je sais aujourd'hui aussi faire un verger pour recueillir du miel, etc. Donc, j'ai professionnalisé ma biochimie. Bon, voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Je crois qu'il faut que les dirigeants nous disent la vérité. Et comment on peut se comporter par rapport à cette vérité? Il y a l'évasion fiscale, il y a le fraude, il y a les fonds marchés avec le gonflement des chiffres, etc., etc. Tout ça doit être dénoncé. Et surtout, dans le cadre de la tolérance zéro. C'est là où on doit partir. Sinon, on dit la gloire à Mobutu parce qu'il a parlé des économistes des chambres, des planificateurs des chambres, etc. Il ne faut pas que le DCRP soit un travail d'économiste de chambre, de planificateur de chambre. Il faut que ce soit un travail de terrain qui puisse mobiliser tout le monde. J'attends à ce qu'on nous dise la vérité parce que je voudrais aussi participer à relever le défi du développement du Congo.
Merci. Merci, docteur Richard. Vous dites qu'il est bon de jeter un regard sur le passé avant de pouvoir se lancer sur les pas pour aller vers le futur. Merci, docteur Richard. Vous avez sa vision à l'ascension, aussi l'agriculture, donc autant de choses que vous avez relevées. Nous vous remercions pour votre intervention. Nous prenons maintenant Séraphin depuis Ouvira. Bonjour.
Oui, bonjour, madame Marie-Chantal Luma.
C'est Raphaël, on vous écoute.
Plutôt, c'est moi qui vous écoute, madame.
C'est Raphaël, en fait, aujourd'hui, nous parlons des stratégies que vous, auditeurs, vous proposez pour lutter contre la pauvreté, l'extrême pauvreté en RDC, parce qu'éradiquer la pauvreté, ce serait une utopie, mais quand même l'extrême pauvreté en RDC. Et nous vous donnons la parole. Quelles sont vos propositions, c'est Raphaël?
Oui, en fait, je vous remercie d'avoir un peu à m'accorder cette opportunité de passer une fois de plus sur votre émission. Mais moi, peut-être, je m'attellerai sur les fonctions de l'État dans les économies développées modernes. Parce qu'un État responsable doit toujours respecter ses fonctions. Notamment, d'abord, la fonction de passer les choses. Je crois que votre invité est là sur le studio. Je crois que cette fonction se traduit par l'intervention de l'État afin que les producteurs de biens et services à la place du secteur privé des femmes. Mais aujourd'hui, il peut nous dire qu'est-ce que notre gouvernement produit. Est-ce qu'aujourd'hui l'État a une entreprise de production? C'est la première question. Est-ce que l'État parvient aujourd'hui à satisfaire les besoins publics? C'est ça la première question que je voudrais peut-être poser à votre invité, qui va dans le cadre de la fonction d'affectation des ressources. Alors, concernant maintenant la fonction de redistribution des richesses nationales, aujourd'hui, notre pays, notamment nos gouvernants, est-ce qu'il redistribue la richesse nationale d'une manière équitable? C'est ça le problème. Nous, en tant que les membres du gouvernement, tout d'abord, c'est toujours combien c'est lui tous et combien c'est l'enseignant et l'unité à tous. Vous voyez que cette redistribution crée une sorte d'inégalité. Et cette inégalité, parce que la plupart, nos gens qui sont au pouvoir, qui sont mieux placés, eux ne souffrent pas de cette pauvreté. Mais le peuple, le bas peuple souffre de cette pauvreté par un mauvais traitement. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième des choses, je voulais peut-être aller sur la responsabilité de l'État, dont la troisième fonction de la responsabilité de l'État, c'est la stabilisation de la conjoncture. Est-ce que oui, le fait de d'abord se donner l'attention ou l'objectif constant de stabiliser la conjoncture, c'est-à-dire de maintenir la demande globale au niveau désiré par la population. Est-ce qu'aujourd'hui la conjoncture actuelle permet à ce qu'avec le faible pouvoir d'achat que le peuple congolais a aujourd'hui, est-ce que ça permet à ce que le peuple congolais puisse faire ses besoins primaires? Donc c'est ça, donc la responsabilité dans tout droit au gouvernement, à notre État. Donc nous avons des personnes qui sont des égoïstes, qui veulent à tout prix à ce que leur intérêt soit privilégié au détriment d'intérêt de la population congolaise. Donc vraiment, c'est déplorable, madame.
Mais à votre niveau, par exemple, à votre niveau, dans votre quartier, quelles sont les propositions pour mettre fin? Parce qu'il faudrait pas, c'est vrai que l'État va, selon vous, devrait mettre dans un cadre avec tous les paramètres qu'il faut pour pouvoir permettre l'évolution et aussi la production interne, mais au niveau totalement micro-économique, on peut appeler ça comme ça. Quelles sont vos propositions?
Ma proposition, c'est d'abord, il faudrait que la richesse nationale soit redistribuée d'une manière équitable. Parce que le temps qu'on constate aujourd'hui entre la rémunération des autorités et des bas peuples, c'est inconcevable dans aucun pays du monde où quelqu'un touche 10 000 dollars et l'autre touche 50 dollars. C'est pratiquement impossible. Il faudrait que la richesse nationale soit redistribuée d'une manière équitable. C'est la première des choses. Et la deuxième des choses, l'État, vous promettez, non, on doit atteindre le taux d'achèvement. On a atteint ce taux d'achèvement. Mais pourquoi ne pas stabiliser le cadre de la économie à conjoncture actuelle? Aujourd'hui, nous sommes à quel taux? Est-ce que le 1 dollar est toujours à combien de francs congolais? On était même à l'auteur de la transition, on était à 550 francs. Mais aujourd'hui, nous sommes à combien? Donc, il y a maintenant une augmentation de pourcentage de 90%. Et aujourd'hui, le taux d'inflation, tout le monde dit que c'est 15%, madame. C'est inconcevable. Il faudrait que le capital stabilise la conjoncture actuelle et redistribue équitablement la ressource nationale. Et aussi, affecter la ressource, c'est peut-être que notre gouvernement crée des entreprises.
Merci.
Et doit faire face aux entreprises qui peuvent aujourd'hui les appeler les entreprises privées, madame.
Merci beaucoup, Séraphin, pour votre participation. En gros, vous pensez que si sur le plan macroéconomique, rien n'est fait, vous pensez que sur le plan microéconomique, ce sera un peu difficile. C'est un peu, en gros, ce que vous tentez de nous dire. Merci Séraphin Douvira. Bonjour Donatien.
Bonjour maman Chantal.
Nous vous écoutons à partir de Bougimaï.
Oui maman Chantal, la pauvreté en RDC c'est le problème de tout Congolais. Il ne faut pas prendre tout, mettre toujours en charge que l'État est le responsable de cette pauvreté, non. C'est parce que nous avons vu, en 1990, il y a eu deux pillages. Si on fait le pillage, ce sont le peuple congolais eux-mêmes. Il y a le terre de 1996 et 1988. Il y a déplacement massif de la population vers les grands centres et la mauvaise gouvernance. Tout ça, ça contribue aussi à la pauvreté de notre pays parce que les Congolais n'aiment pas le travail. Comme on dit, le travail assure l'indépendance.
Donc, pour vous, Donatien, il faudrait que les populations se remettent au travail. Merci, Donatien. Donc, vous imaginez, vous estimez également que les responsabilités sont partagées. Ce n'est pas tout simplement le gouvernement. Vous avez donné même un exemple des pillages. Ce n'est pas le gouvernement qui a pillé, c'est plutôt les populations qui ont pillé. Et merci pour votre intervention. Nous allons écouter le professeur Mango. Il est expert en développement, mais entre-temps, il y a Malako qui nous écrit à partir de Kananga. Et Christ Steele voudrait contribuer à l'étude de la réduction de la pauvreté en RDC en disant qu'il faut absolument concrétiser totalement la vision des cinq chantiers de la République qui constitue une synthèse incontournable et une issue vers le développement de notre pays. Professeur Mango, vous êtes expert en développement. Quelles sont vos propositions pour réduire la pauvreté en RDC?
Merci, mais je pense que réduire la pauvreté en RDC, c'est une notion vague. Quand on pense aux différents objectifs du millénaire, il y en a 8. Mais je voudrais simplement m'arrêter au premier, la réduction de la pauvreté à travers la réduction de la faim. Quand on sait que dans notre société, il y a 75% de le secteur informel qui constitue la nasse de la société, qui constitue le lieu de survivance de notre société, est occupé à 75% par des femmes. Quand on sait que l'agriculture, c'est-à-dire permettre à manger à la population, est occupée à 71% par les femmes. Et quand on sait que les ménages congolais aujourd'hui vivent chaque jour à 67% des contributions de femmes. Donc il n'y a pas une autre voie par laquelle passe la réduction de la pauvreté le plus rapidement possible, c'est de valoriser le travail de la femme. Les contributions des femmes dans le développement. En ce sens que le secteur où œuvre la femme aujourd'hui, en tant que majoritaire à toutes les instances que je viens d'évoquer dans la société, ce secteur-là doit être remis et réhabilité. Dans l'agriculture, qu'il s'agisse de la mécanisation de l'agriculture, qu'il s'agisse du bon traitement, de l'amélioration de la manière dont le secteur informel évolue, qu'il s'agisse du fait du travail de la femme dans le ménage, le droit de la femme, c'est tout cela qui va concourir à réduire la pauvreté. On pense qu'il faut avoir de gros moyens, on pense qu'il faut construire d'abord les cinq chantiers, on pense, c'est bien beau tout cela, mais tant que le droit de la personne qui contribue à la survivance, tant que les moyens ne sont pas donnés à l'agriculture pour commencer, tant que les moyens, les secteurs informels sont pris à la vilainerie dans une société, on ne sortira pas en termes de réduction de pauvreté. Voilà un peu la voie que moi je
traite. Mais au regard, par exemple, du document stratégique de réduction de la pauvreté qui est déjà élaboré ici en RDC, est-ce que vous pensez que cette application pourrait permettre vraiment de sortir de cette impasse?
Oui, c'est comme ça d'ailleurs que nous avons demandé la révision de ces documents de stratégie. Il est maintenant en train d'être révisé, d'être évalué. Et il réforme justement que la dimension stratégique
et transversale du genre, de la prise en compte des contributions des femmes, devrait transparaître à tout le point de ces documents. C'est la seule manière d'améliorer ces documents de réduction des pauvretés.
Merci beaucoup, professeur Mangou. Vous êtes expert en développement. Cette fois-là, nous avons une femme au bout du fil. Elle nous appelle à partir de Mbandaka. Bonjour, Darren.
Oui, bonjour.
Maintenant, je pense que vous avez suivi le professeur Mangou du rôle important que devra jouer la femme dans le développement, même dans la réduction de l'extrême pauvreté. Qu'en pensez-vous?
Bon, avant d'aller à propos de ma situation, je vous dirais d'abord de comprendre que nous, dans la lutte contre la faim et la pauvreté, nous sommes dans une situation difficile à surmonter et plus dans les paradoxes honteux dans lesquels nous nous sommes en train de vivre dans un pays riche pauvre. C'est honteux pourquoi, en faisant l'analyse systématique de l'article 1er, alinéa 6 de la présente constitution parallèle à la devise de notre pays, qui est la justice, la paix et le travail. Ces trois éléments, justice, paix et travail, ne sont jamais en application. Il n'y a pas justice, ni la paix, ni encore le travail. Alors, ici, pour lutter contre la faim et la pauvreté, nous aurons à faire plus avec le travail. Nous, les Congolais, nous sommes responsables de ce que nous sommes tels que les pauvres et ce qui nous arrive, comme la faim. D'où la solution, c'est nous-mêmes. Et ce qui est encore plus grave, c'est que nous n'avons jamais une idée de créativité, ni l'esprit de travail. L'État congolais ne veut pas créer des emplois, il veut seulement chaque jour et pour toujours profiter de l'initiative privée pour en tirer des recettes. Or, c'est faux et archi faux. L'État congolais doit avoir un esprit de travail, créer des emplois, donc donner des initiatives pour travailler durement, pour encaisser quelque chose là. Vraiment, c'est honteux, vraiment.
Merci Darren, mais aussi l'État congolais doit se mettre en place des mécanismes pour pouvoir donner aux gens l'envie de créer des emplois. Donc, c'est ce sont de choses que vous avez soulevées. Merci pour votre participation.
Parole aux auditeurs.
Notre invité à cette émission, c'est M. Manou Estimbo. Vous avez suivi, nos auditeurs, votre réaction.
Merci beaucoup, madame. Je crois que nous avons des auditeurs où j'aurais plutôt les Congolais très avertis. Quand j'entends toutes ces questions, je me dis que, contrairement à ce que les gens pensent, que la population congolaise est discrète, bon, je crois qu'elle est très avertie. Elle suit des choses de très près. Le premier intervenant a mis l'accent sur la nécessité de faire une comparaison entre 60, avant 60 et ce qui s'est passé après 60. Je crois qu'il voudrait tout simplement souligner l'importance de l'histoire économique. Je crois que dans toute démarche rationnelle, il faut toujours une analyse rétrospective, voir où on a. On a été d'où l'on vient, où l'on est aujourd'hui. Je crois que c'est cette approche-là qui a été suivie dans l'élaboration du DSRP. On a fait un diagnostic. Dans le DSRP des premières générations, nous sommes même remontés plus loin dans le temps. Et dans le DSRP de deuxième génération que nous sommes en train d'élaborer, finalement, la part de la rétrospective est très, très, très respectée. Alors, il a parlé des planificateurs de chambres. Non, je crois que si le DSRP fait des noms des planificateurs de chambres, c'est que l'approche participative est tordue en RDC. Quand tout le monde doit participer à l'élaboration, à la réflexion stratégique, je crois que si ça débouche sur un profil de personnes qui réfléchissent dans des découvertes ou dans des chances, c'est très grave. Non,
mais la participation de la femme dans le DSRP, est-ce qu'elle a une place de choix?
Oui, moi je connais des femmes très dynamiques qui réfléchissent fort et haut et qui se font entendre. Je crois que nous sommes, le processus est en cours. Mm-hmm. Je crois que le moment venu, vous entendez justement la voix des femmes dans le DSRP de deuxième génération. La dimension genre est extrêmement importante.
Mmh.
Un intervenant a parlé de l'intervention de l'État pour produire. Bon, je crois que ces modèles de production n'existent plus dans des économies qui ont adhéré au capitalisme. Non, je crois que l'État épicier, l'État boulanger, on a vu ça dans ce pays. L'expérience a été plus que malheureuse.
Mmh.
Nous pensons que l'État doit être là où le privé ne peut pas opérer et là où lui-même l'État a des avantages comparatifs.
Mmh.
Je pense qu'il y a la santé.
S'il vous plaît, Monsieur Simon, on écoute Oscar et Titi le temps de vous. On va après vous redonner la parole pour pouvoir conclure et parce que nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission. Mmh. Oscar, en une minute, quelles sont vos propositions? Vous êtes à Kananga.
Ma proposition, Marie-Chantal, d'abord, merci beaucoup de pouvoir me donner la parole. J'aurais voulu poser la question à votre invité, le député sur le plateau. Quel est le revenu annuel pour chaque citoyen ici chez nous dans notre pays? Parce que le Congo est en train de produire. On ne me dira pas qu'il produit, parce que tout ce qu'il est en train de produire là, quel est le revenu annuel de chaque citoyen? Alors, pour parler maintenant de la pauvreté, parce que madame qui vient de me précéder a tout expliqué, ce n'est pas bien réparti dans ce pays, donc c'est fiasco.
Donc vous pensez qu'il faudrait une meilleure répartition, ce qui permettrait de pouvoir reculer la pauvreté. Merci Oscar de Kananga. Bonjour Titi.
Bonjour.
Vous êtes à Likasi, quelle est votre proposition?
Je vous remercie d'abord de m'avoir donné la parole. Et puis, c'est vraiment un point très sensible que vous venez de toucher. Je vous remercie encore une fois de plus.
Mmh.
En ce qui concerne ma proposition, moi, je n'aurais vu. Il faut d'abord, premièrement, création d'emplois. Parce que nous remarquons qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de chômage. Les gens ne travaillent pas, mais il y a une multiplication de diplômes des gars. Et qui favorise aussi le chômage. Ainsi, que la pauvreté, la
chaîne de notre pays. Merci. Je sais que vous n'avez pas assez de temps, mais nous vous remercions pour votre participation. Pour vous, c'est vrai qu'on puisse créer de l'emploi. Nous revenons à vous, monsieur Essimbo. C'est vrai que pour un plan comme ce document, on a besoin des moyens, des fonds, et suffisamment pour l'appliquer. Où viendront ces fonds?
Le fonds national, le fonds interne. Je crois que c'est l'élément fondamental. Il faut améliorer suffisamment donc la capacité de mobilisation de ressources internes. Quand on veut un développement intégré, quand on veut un développement qui réponde pas aux soucis, aux préoccupations, aux priorités nationales, il faut d'abord mettre l'accent sur ces ressources propres. Le DSRP, c'est un document de partenariat, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement l'État. Il ne faut pas seulement voir les ressources publiques. Dès le moment où on implique le privé, le rôle de l'État intervient, le rôle de l'État est là dans le sens de l'amélioration de l'environnement des affaires. Il faut faire en sorte que l'environnement des affaires soit assaini, qu'il y ait beaucoup plus de justice, comme l'a dit madame tout à l'heure là. Qu'il y ait beaucoup moins d'incertitudes, que la sécurité juridique soit là, et là, ça va inciter les secteurs privés. Le troisième partenaire, et non le moindre, à l'état où l'économie congolaise se trouve aujourd'hui, c'est vos partenaires extérieurs. Les partenaires extérieurs sont partie prenante, n'est-ce pas, dans le financement du DSRP. Ça, c'était pour répondre à votre question. Je ne sais pas si je peux revenir à...
Oui, vous avez encore une minute.
Ah oui, seulement une minute.
Oui.
Alors là, je prendrai une préoccupation qui a été exprimée. C'est la nécessité de stabiliser les cadres macroéconomiques. L'instabilité macroéconomique participe également de l'aggravation de la pauvreté. Quand les prix sont volatiles, quand la valeur interne et externe de la monnaie n'est pas stable, ça contribue à la pauvreté. Donc, je pense que ça a été une priorité dans le DSRP des premières générations. ça sera encore une priorité dans les SRP à venir et même pendant très longtemps.
Oui, il faut beaucoup de choses. Il y a tellement de paramètres pour pouvoir stabiliser. C'est un peu le cadre macroéconomique. C'est beaucoup de travail, surtout au niveau interne.
Voilà là où le rôle de l'État doit être vraiment très renforcé. Ce n'est pas dans la production de pain. Non, il faut que l'État améliore, n'est pas la gouvernance, améliore la gestion des finances publiques. Surtout des finances publiques.
Merci beaucoup, Monsieur Manu Estimbo, d'avoir participé à cette émission, de nous avoir donné de votre temps. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission qui était consacrée à la lutte contre l'extrême pauvreté et la faim. Les auditeurs ont donné leurs propositions, leurs suggestions. Nous vous disons merci pour ceux qui sont intervenus, les auditeurs, et ceux qui nous ont suivis en FM ou sur www.radiocapi.com. Nous prenons un prochain rendez-vous. Le prochain rendez-vous se fera demain. Nous allons parler des naufrages sur les cours d'eau en RDC. De plus en plus, on enregistre des cas de naufrages faisant plusieurs morts, des disparus ou des pertes importantes de quantité des biens. À votre avis, que faut-il faire pour prévenir ces accidents de transport maritime? Vous pouvez donner votre avis en nous écrivant dès à présent à pa@radiocapi.net. Merci à Thierry Lamégi, à Nicole Gaka et bien sûr à Cynthia Bachizi qui ont réalisé cette émission. Marie-Chantal Lumba était à la présentation. N'oubliez pas qu'il y aura une rediffusion de cette émission à 20h03, heure de Kinshasa. Et restez en compagnie de Radio Capi. Thank you.